Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Le Monde aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition du jeudi 21 juillet 2022. Eric Manirakiza avec vous. Voici d'abord le sommaire. Le vainqueur du Ballon d'Or africain de la saison 2021-2022 va être connu aujourd'hui à 20h au Maroc. Pluie au Niger, 15 morts et plus de 23 000 sinistrés depuis juin dernier. Dakar, au Sénégal, a connu hier des inondations qui ont fait d'importants dégâts matériels. Le président Joe Biden est testé positif au Covid-19 avec des symptômes très légers, selon la Maison-Blanche. En Italie, le Premier ministre Mario Draghi a encore démissionné, mais va assurer les affaires courantes jusqu'aux élections anticipées. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. L'armée malienne a annoncé jeudi avoir neutralisé une cinquantaine de terroristes lors de plusieurs opérations menées entre le 14 et le 18 juillet dans le centre et l'est du pays. L'attaque d'une patrouille militaire le 14 juillet à Mondoro dans le centre a été suivie de violents combats, affirmait l'armée dans un communiqué. Elle dit en avoir fait de même avec de groupes armés terroristes dans le secteur de Sokolo à la même date et avec sept autres terroristes à Kolongo, Niaro et Pogo dans le centre du pays également. Le commandant de la force française Barkhane, le général Laurent Michon, a accusé jeudi à Ouagadougou le groupe paramilitaire russe Wagner de prédation, le comparant à un dealer de drogue dans sa façon d'agir au Mali. Le général Michon a affirmé que le groupe avait utilisé le principe du deal de drogue en offrant une première dose gratuite au Mali, une protection contre les méchants français et des résultats rapides. Dans le centre du Mali, ils ont fait 200 prisonniers, tous exécutés dans la foulée. C'est du résultat rapide de mercenaires, a-t-il ajouté. Au Sénégal, des pluies torrentielles se sont abattues sur Dakar, provoquant d'importants dégâts matériels dans la capitale. Au moins 84 mm de pluie se sont abattus hier sur Dakar, provoquant l'affaissement d'une partie de l'autoroute Lim-Moulay, les ponts de Wakinane et de Malika. Des ouvrages emblématiques parmi les infrastructures du Sénégal. Le président Macky Sall a déclenché le plan Orsec qui permet de financer les catastrophes et les situations d'urgence. Au Niger, les fortes pluies qui tombent depuis le mois de juin ont fait 15 morts et plus de 23 000 sinistrés, ont indiqué ce jeudi les autorités de ce pays au climat habituellement très sec. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Les régions les plus touchées sont celles de Zindé, Maradi et Difa. Les services nigériens de la protection civile indiquent que la majorité des victimes sont soit mortes par noyade, soit suite à l'effondrement de leurs habitations. Les pluies ont détruit ou endommagé plus de 3000 maisons et provoqué l'effondrement de classes, de dispensaires, de greniers à céréales et de boutiques. Il a été enregistré 262 mm de pluie au niveau de la localité de Amdara, dans la zone de Zindé, a précisé Lawan Magaji, le ministre nigérien de l'action humanitaire, chargé de la gestion des catastrophes. En dépit de sa courte durée de 3 à 4 mois maximum, la saison des pluies est devenue meurtrière ces dernières années, y compris dans les zones désertiques du nord du Niger. En 2021, selon les autorités, les fortes pluies ont causé la mort d'au moins 70 personnes et fait plus de 200 000 sinistrés.
L'ex-président sud-africain Thabo Mbeki a averti jeudi que son pays était assis sur une bombe à retardement et pourrait faire face à un soulèvement semblable à celui du printemps arabe déclenché par une révolte sociale. Mbeki, qui a succédé en 1999 à l'icône de la lutte contre l'apartheid Nelson Mandela, a déclaré que l'Afrique du Sud était confrontée à des niveaux insoutenables de pauvreté et de chômage. Le comité de protection des journalistes a demandé la libération de 5 journalistes d'une chaîne de télévision de la région du Tigré arrêtée par les autorités régionales rebelles du TPLF. Claire Morégibourg.
La date exacte de l'arrestation de ces journalistes de Tigray TV, une chaîne liée au TPLF, n'est pas connue. Selon le CPJ, les autorités régionales accusent les journalistes qui sont détenus à Mekele de collaboration avec l'ennemi pour leur travail présumé avec le gouvernement fédéral éthiopien. D'après cette association basée à New York, un décret des autorités rebelles du Tigré imposant l'état d'urgence prévoit qu'une personne condamnée pour collaboration avec un groupe désigné comme ennemi encourt une peine pouvant aller jusqu'à la réclusion à perpétuité ou la peine de mort. Le CPJ demande que les 5 journalistes emprisonnés pour leur travail soient libérés et que les autorités du Tigré cessent de harceler et détenir des membres de la presse.
Au Soudan, un nouveau manifestant a été tué par balle à Khartoum jeudi, indique un syndicat de médecins pro-démocratie, portant à sa 15 le bilan de la répression depuis le coup d'état du général Abdel Fattah al-Burhan en octobre. Ce manifestant a été tué à Omdurman, la banlieue nord-ouest de Khartoum, précise le syndicat qui a recensé des milliers de blessés depuis le putsch du 25 octobre 2021. Le directeur général de l'OMS s'est dit inquiet jeudi de l'augmentation du nombre de cas de variole du singe lors de l'ouverture de la réunion du comité qui doit décider si cette maladie est une urgence de santé publique mondiale, le plus haut degré d'alerte.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Joe Biden, 79 ans, a été testé positif au Covid-19 et présente des symptômes très légers, a annoncé sa porte-parole Karine Jean-Pierre. Le point avec Nanit Talami.
Joe Biden, qui jusqu'ici n'a jamais été testé positif, a commencé à prendre du Paxlovid, la pilule anti-Covid de Pfizer, et va s'isoler à la Maison-Blanche jusqu'à ce qu'il soit à nouveau négatif. Le président pleinement vacciné et qui a reçu 2 doses de rappel va continuer à assumer la totalité de ses fonctions pendant ce temps, a indiqué Karine Jean-Pierre. La Maison-Blanche promet de communiquer chaque jour sur l'état de santé de Joe Biden, 79 ans. Son dernier test négatif, remonté à mardi, a précisé Karine Jean-Pierre. Le président avait initialement prévu un déplacement en Pennsylvanie aujourd'hui jeudi pour parler des armes à feu et devait se rendre lundi en Floride pour tenter de mobiliser les électeurs avant les élections de mi-mandat en novembre. Les États-Unis enregistrent environ 130 000 nouveaux cas de COVID-19 par jour et le nombre d'hospitalisations est également en hausse.
4 hommes ont été inculpés hier par un grand jury au Texas après la mort de 53 migrants qui avaient été retrouvés abandonnés fin juin dans un semi-remorque surchauffé à San Antonio. Ils encourent la peine capitale. En Italie, le Premier ministre Mario Draghi a encore démissionné, défait par les poids lourds de sa coalition d'unité nationale. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le Premier ministre Mario Draghi s'est rendu au palais présidentiel où il a remis sa démission au président Sergio Mattarella qui en a pris acte. M. Mattarella pourrait prononcer la dissolution du Parlement et convoquer des élections anticipées à l'automne. En attendant, le gouvernement reste en place pour expédier les affaires courantes. Le départ de Mario Draghi était attendu. Forza Italia, le parti de droite de Silvio Berlusconi, la Ligue, la formation d'extrême droite de Matteo Salvini et la formation populiste Mouvement 5 étoiles ont refusé de participer à un vote de confiance demandé par le chef du gouvernement au Sénat. Ces désertions en masse sont un désaveu pour M. Draghi, arrivé à la tête de l'exécutif en février 2021 pour sortir l'Italie de la crise sanitaire et économique. Mario Draghi, 74 ans, a déjà présenté sa démission le 14 juillet au président Mattarella, qui l'avait refusé.
La Russie et l'Ukraine vont signer un accord sur les exportations de céréales à Istanbul demain vendredi après-midi, a annoncé ce soir la présidence turque. Les États-Unis ont salué cet accord entre la Russie et l'Ukraine sur ces exportations. Washington a exhorté Moscou à le mettre en œuvre selon le porte-parole du département d'État. La diplomatie russe a accusé jeudi Kiev d'avoir effectué cette semaine des frappes de drones sur le site de la centrale nucléaire de Zaporizhia dans le sud de l'Ukraine sous contrôle des forces russes depuis mars. L'Ukraine a accusé la Russie de stocker des armes lourdes et munitions sur le site. En Haïti, alors que Port-au-Prince s'enfonce dans la violence et les villes haïtiennes font face à une double pénurie de carburant et d'électricité qui entrave le fonctionnement des hôpitaux et des commerces. La guerre des gangs ensanglante la capitale où au moins 234 personnes sont mortes. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Nanit Sylvani Talani.
Le ministère angolais des Transports a attribué un appel d'offres au consortium Trafigura pour exploiter et étendre l'infrastructure ferroviaire et accélérer les importations de matières premières en provenance de la RDC. Trafigura va investir quelque 333 millions de dollars pour une concession de 30 ans afin d'améliorer le corridor ferroviaire qui relie le port de Lobito à Luau dans l'est de l'Angola, près de la frontière avec le Congo. Une fois achevé, il pourrait contribuer jusqu'à 3,4 milliards de dollars au PIB angolais. Au Ghana, les législateurs ont approuvé un prêt de 750 millions de dollars de la Banque africaine d'import-export et continuent de débattre d'un autre prêt d'une valeur de 250 millions de dollars. Accra cherche à surmonter un déficit des paiements de près d'un milliard de dollars. Le pays fait face à une forte inflation et une monnaie locale en chute libre. Terminons par la Libye qui a repris ses exportations de pétrole brut. La société libyenne Waha a repris la production de ses champs avec une capacité initiale de 15 000 barils par jour qui devrait vite doubler. Un pétrolier battant pavillon maltais, le Matala, a accosté au terminal Al-Sidra pour embarquer 1 million de barils de brut. Deux autres, dont un battant pavillon du Libéria, devraient expédier 1,6 million de barils depuis les terminaux de Zuetina Ras Lanouf.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Alors, qui pour succéder à Sadio Mané, détenteur du titre de meilleur joueur africain de l'année, la réponse ce soir à la faveur des CAF Awards à Rabat, au Maroc. Yacouba.
Oui, Sadio Mané reste le sérieux candidat à sa propre succession pour le titre de Ballon d'Or africain. Le Sénégalais du Bayern Munich fait tout de même face à son ancien coéquipier de Liverpool, l'Égyptien Mohamed Salah et son équipier en sélection, le gardien de but de Chelsea, Edouard Mendy. Mané est à Rabat pour la cérémonie, nous dit notre consultant sportif Amine Birouk, joint à Casablanca.
Il est arrivé en début d'après-midi à travers un jet privé des États-Unis. Où il effectue avec son nouveau club le Bayern sa préparation. S'il est déjà là, c'est qu'il est sûr de gagner son prix. Sur le plan du rendement, de la régularité, des buts, des assists, de l'influence dans le jeu, de la personnalité, il n'y a pas photo.
Vous retrouverez l'analyse complète d'Amine Birouk dans la partie magazine de cette édition. Il devait choisir aussi l'entraîneur de l'année ou le club ou l'équipe nationale de l'année, chez les hommes comme chez les dames. Pour le Ballon d'Or féminin, trois joueuses sont en lice. La quadruple lauréate Aziza Oshoala, joueuse du FC Barcelone et du Nigeria, en quête d'une cinquième couronne. La Camerounaise Adjaran Chuchunjoya et la nouvelle venue Grace Chanda de la Zambie.
Athlétisme avec les mondiaux qui se déroulent ici aux États-Unis.
Wade Van Niekerk retrouve une finale solide en demi-finale du 400 mètres. Le Sud-Africain disputera pour la première fois depuis 5 ans une finale mondiale demain vendredi sur le tour de piste. Sans affoler le chrono, il a terminé deuxième de sa demi-finale en 44 secondes 75 centièmes. Revenu à la compétition en 2020 après une longue blessure, Van Niekerk a connu un début de saison 2021 encourageant. Avant d'être éliminé en demi-finale des derniers Jeux Olympiques à Tokyo l'an dernier, lui aussi est très attendu aux 200 mètres ce soir. Le nouveau phénomène du sprint américain, Irayon Knighton, s'est fait un nom fin avril quand à 18 ans et encore lycéen, il est devenu le quatrième meilleur performeur de l'histoire sur 200 mètres en 19 secondes 49 en Louisiane.
Et Serena Williams et Novak Djokovic sur la liste des engagés pour l'US Open.
La superstar américaine et le Serbe figurent tous deux sur la liste des engagés pour l'US Open. Cependant, dans le cas de Novak Djokovic, son refus de se faire vacciner l'empêchera d'entrer aux États-Unis. Serena Williams, qui a remporté le premier de ses six titres à l'US Open en 1999, reste à un titre des 24 victoires en Grand Chelem. Le record établi par l'Australienne Margaret Court, Novak Djokovic a remporté son 21e titre du Grand Chelem à Wimbledon et voudra arracher un 22e à l'US Open qui commence le 29 août. Il a déjà remporté 3 fois ce tournoi.
C'était les sports avec Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manila Kizado, retour avec vous, place au dossier du jour. Moins d'un mois après le renouvellement de son mandat pour une année, la MINUSMA rencontre déjà des problèmes au Mali après le communiqué du gouvernement demandant à son porte-parole, Olivier Salgado, de quitter le pays. C'est autour du mouvement Yerewolo, debout sur le rempart, de demander le départ pur et simple de toute la mission onusienne. Notre correspondant Mohamed Danyoko, depuis Bamako, a fait le tour de la question suivant son reportage.
Olivier Salgado, porte-parole de la MINUSMA, vient de faire les frais de la crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire dans l'affaire dite des 49 militaires ivoiriens détenus par Bamako. Les autorités maliennes viennent de lui demander de quitter le territoire suite à son tweet qui indiquait qu'elle était informée de l'arrivée de ses soldats ivoiriens. Cette décision, selon l'analyste Mohamed Mamata Touré, s'explique par l'incohérence des tweets de Olivier Salgado.
Le porte-parole avait fait 3 tweets en l'espace de quelques heures, dont aucun des contenus de ces 3 tweets n'est le même. Dans le premier tweet, il disait que les autorités maliennes étaient informées. Dans le second, il décline l'appartenance des 49 militaires ivoiriens au contingent de la MINUSMA. Dans le troisième, il réaffirme maintenant que ces 49 militaires ivoiriens travaillent pour le contingent allemand de la MINUSMA. Donc la question que nous nous posons est qu'on doit croire en laquelle de ces versions et ne pas croire en laquelle.
Au même moment, le mouvement Yerewolo, debout sur les remparts, dirigé par Adama Diarra, dit Ben Le Cerveau, membre du CNT, a demandé au cours d'une conférence de presse le départ de la mission onusienne du territoire malien. Drissa Mementa, chargé de communication du mouvement.
La MINUSMA, non seulement on tue la population civile devant elle, elle ne fait rien, en plus elle tente également d'empêcher nos militaires d'évoluer sur le terrain avec des rapports bidons en essayant d'opposer les communautés les unes contre les autres. Donc nous avons tout simplement décidé, après avoir mis dehors les forces françaises, de nous lever pour également demander le retrait de l'MINUSMA.
Pour Mamadou Traoré, président du parti Union en Kambolo-Dinyogoma, le plus jeune candidat à la dernière élection présidentielle, les positions extrêmes ne sont pas la solution. Il faut travailler à trouver un consensus avec l'ensemble des partenaires.
Écoutez, nous sommes dans une situation diplomatique assez tendue entre la République du Mali et la République de la Côte d'Ivoire. Et aussi l'AMINUSMA, la mission intégrée des Nations Unies au Mali. Et pour notre part, le Mali n'a nullement besoin de rajouter aux multiples tensions qui existent déjà d'autres tensions. Et nous pouvons ensemble, et l'AMINUSMA et la Côte d'Ivoire et les autorités maliennes, trouver de façon diplomatique, car nul seul ne se suffit.
Depuis hier mercredi, le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, est en visite dans la capitale malienne. Cette crise naissante entre les autorités de la transition et l'AMINUSMA et la crise avec la Côte d'Ivoire feront certainement partie de ces échanges avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Dans le village de Banaté, au nord du Soudan, un nombre croissant de mineurs traditionnels travaillant sur des roches aurifères se débarrassent de déchets miniers chargés de produits chimiques hautement toxiques comme le mercure près des terres agricoles, des sources d'eau et des zones résidentielles. Cette pratique néfaste pour l'environnement est source de pollution et de maladies qui affecte en premier les enfants de la région. Le récit signé d'Ilidico.
À 4 ans, la petite Taleb, née dans le village aurifère de Banat,
ne peut ni marcher, ni s'asseoir, ni se tenir debout. La contamination chimique causée par l'extraction de l'or l'a rendu incapable de bouger. Pour ses parents, l'or qui devait enrichir le village a ruiné la santé de leur fille. Écoutons Awad Ali, le père de la petite Taleb.
Quand elle a eu 2 ans, nous avons découvert qu'elle ne pouvait pas s'asseoir. Au début, je la soulevais et quand je la mettais sur le lit, elle s'asseyait. Et plus tard, elle est devenue un peu plus lourde et ne pouvait plus se tenir droite. Même si sa santé semblait excellente, son corps était défaillant.
À l'origine des maladies, des malformations et des fausses couches, la poussière d'or. De nombreux dépôts blancs qui forment de petits tas au pied des maisons et dans les champs. Il s'agit d'un mélange de métaux lourds utilisés par les mineurs artisanaux pour extraire l'or. On y trouve du mercure, du cyanure et d'autres agents nocifs pour l'homme, les animaux et l'environnement. Saleh Ali est professeur à l'université Nilen dans la faculté des minéraux et du pétrole. Il explique que l'État est impuissant face à la multiplication des mines artisanales.
Le problème de l'exploitation minière est qu'elle est répandue dans presque tous les États du Soudan. Il y a plus de 2 millions de mineurs artisanaux et l'État n'a malheureusement pas été en mesure de gérer ce secteur et n'a pu mettre fin à son activité. Cela est dû à la ruée vers l'or. Car l'or est un métal précieux et cher. Cela pousse les gens à essayer d'en obtenir par tous les moyens.
Avec la propagation des résidus miniers, les terres et les corps dans cette région du Soudan sont désormais incrustés d'éléments nocifs. Ali Mohamed Ali est chef de l'association soudanaise pour la protection de l'environnement.
Actuellement, les habitants de ces lieux sont confrontés à un énorme problème, à savoir la présence de grandes quantités, des milliers de tonnes de déchets ou de résidus miniers dans les zones résidentielles et agricoles.
Aujourd'hui, les mines artisanales assurent 80% de la production d'or au Soudan. Chaque jour, 2 millions de Soudanais y travaillent dans 16 des 18 provinces du pays. Avec tant de mines non spécialisées, travaillant avec des produits chimiques toxiques, la situation sanitaire et environnementale dans les villages aurifères soudanais risque fortement de s'aggraver.
Le sommet des affaires entre les États-Unis et l'Afrique bat son plein à Marrakech, au Maroc. Au programme de cette 14e édition des tables rondes et des rencontres entre une importante délégation américaine des ministres et chefs d'État africains, mais aussi des décideurs des plus grandes multinationales. Objectif, favoriser les investissements et créer de la valeur économique. Les précisions de notre correspondant au Maroc, Robin Dussène.
Construire ensemble l'avenir, c'est le thème retenu pour ce grand conclave des affaires qui se tient depuis mercredi au Palais des Congrès de Marrakech. Un sommet qui va encourager l'investissement et les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique dans le secteur public comme dans le secteur privé.
L'Afrique est le continent qui a la croissance la plus rapide du monde. D'ici 2030, il y aura 1,7 milliard d'habitants en Afrique, ce qui représente un cinquième de la population mondiale.
La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, qui s'exprimait en visioconférence depuis Washington.
Il y a une demande croissante en alimentation, santé publique, éducation, technologie et infrastructure. Mais à ce jour, il reste des obstacles. Un accès limité au capital, le coût élevé du financement et des goulots d'étranglement. Étranglements légaux et réglementaires. Tout cela fait partie des chantiers prioritaires en Afrique, sans oublier la crise du Covid, le changement climatique et l'insécurité alimentaire.
En Afrique en particulier, dans le monde en général, la pandémie a fait des dégâts. La croissance mondiale devrait baisser de 5,7 points en 2021 à 2,9 cette année. Si certains y voient un désastre, d'autres préfèrent y voir une opportunité. C'est le cas de Shakib Alj, le président de la CGEM, le syndicat du patronat au Maroc.
Grâce à un développement technologique et une transition démographique rapide, le continent dispose d'un fort potentiel d'affaires qui malheureusement reste sous-évalué. Nous pouvons y répondre uniquement en créant toujours plus d'emplois. L'Afrique peut aussi compter sur d'importantes ressources naturelles avec un potentiel de transformation sur place. Ces atouts font de l'Afrique un continent non seulement compétitif, mais aussi du futur.
Ce fort potentiel dont parle le patron des patrons au Maroc, d'autres décideurs en sont également convaincus, Coca-Cola, ExxonMobil, Pfizer, Atijari, Wafabank, autant d'entreprises qui ont fait le déplacement dans la ville Ocre, de même que des chefs d'État africains comme le président de la RDC Félix Tshisekedi, du Rwanda Paul Kagame ou du Kenya Uhuru Kenyatta, autre acteur du secteur public, cette fois qui suit de près les échanges, la Millennium Challenge Corporation, la MCC, l'agence de développement du gouvernement américain qui a investi en Afrique près de 9 milliards de dollars depuis sa création en 2004 et qui continue d'accompagner ses partenaires sur le continent. Carrie Monahan est la directrice générale adjointe de la MCC au Maroc.
Nous sommes en train de piloter un projet dans le foncier industriel qui a beaucoup de potentiel au Maroc. Nous avons financé un projet avec le ministère d'Industrie ici pour signer les premières trois Public-Private Partnerships, PPP, pour des zones industrielles au Maroc. Et on estime que ça va créer 27 000 emplois.
Relancer la croissance économique en Afrique et avec l'Afrique. Voilà en somme l'objectif de cette grand-messe du commerce et des affaires qui se termine ce vendredi 22 juillet, mais qui va d'ores et déjà connaître un deuxième round. Le président américain Joe Biden a annoncé la tenue d'un nouveau sommet entre les États-Unis et le continent africain. Rendez-vous à la mi-décembre. Robin Dussène à Tanger pour VOA Afrique.
C'est ce soir qu'ont lieu à Rabat au Maroc les CAF Awards, la cérémonie de récompense des meilleurs acteurs de l'année du football africain. Les distinctions concernent plusieurs catégories, mais la récompense ultime reste le meilleur joueur africain masculin de l'année. Pour ce prix de Ballon d'Or africain, le détenteur du titre, le Sénégalais du Bayern Munich, Sadio Mané, est à Rabat. Il fait face à son ancien coéquipier de Liverpool, l'Égyptien Mohamed Salah, et son équipier en sélection, le gardien de but de Chelsea, Edouard Mendy. Joint par Yacouba Ouedraogo à Casablanca au Maroc, Amine Birouk, consultant sportif, affirmait que Mané est favori à sa propre succession.
Mané, archi-favori. Le constat le plus éloquent, le plus important, il est arrivé en début d'après-midi à travers un jet privé des États-Unis où il effectue avec son nouveau club le Bayern sa préparation. S'il est déjà là, c'est qu'il est sûr de gagner son prix. Il a gagné la CAN avec le Sénégal en étant le principal instigateur du premier sac de l'Onda Teranga. Il a permis au Sénégal de se qualifier pour une deuxième Coupe du Monde consécutive. Et puis en club, il a réussi à atteindre la finale de la Champions League et à remporter la FA Cup et la Carling Cup. C'est un palmarès complet. Il a manqué peut-être un petit quelque chose avec son club pour remporter la Coupe aux grandes oreilles. Mais sur le plan du rendement, de la régularité, des buts, des assists, de l'influence dans le jeu, de la personnalité, il n'y a pas photo.
Edouard Mendy, c'est un gardien de but qui intègre le trio final hein, du Ballon d'Or africain. C'est quand même pas un fait habituel.
Ce n'est pas habituel, mais je l'aurais vu davantage la saison dernière lorsqu'il avait gagné la Champions League et contribué au sacre de Chelsea. Que cette saison où Mahrez a gagné beaucoup plus que lui. Mahrez a gagné la Premier League avec Manchester City et a atteint la demi-finale de la Champions League avec l'équipe des Citizens. Maintenant, le bémol au tableau noir pour l'Algérien, c'est la participation à la CAN et surtout la non-qualification à la Coupe du Monde. C'est là où peut-être Edouard Mendy a marqué des points.
Chez les dames, il y a trois candidates. Hein. La Camerounaise Adjara Nchut Njoya de l'International et Milano, Aziza Oshuala du Nigeria et du FC Barcelone, mais aussi Grace Chanda de la Zambie. Est-ce qu'on pourrait toujours parler de Aziza Oshuala comme favorite?
Même si elle a manqué la CAN pour une blessure, visiblement, elle est un peu au-dessus du lot. Il faut juste rappeler qu'avec Barcelone, elle a remporté la Liga, un club qui a gagné ses 30 matchs de championnat. Elle était la meilleure buteuse du championnat espagnol. Et avec Barcelone, elle a vécu une nouvelle épopée européenne, atteignant la finale. Barcelone s'est certes incliné face à l'Olympique Lyonnais, mais Aziza Oshuala a toujours été de tous les bons coups du club catalan. Je la verrai au-dessus de la Camerounaise et un peu au-dessus également de la Zambienne.
Côté entraîneur, il y a Aliou Cissé dans la course, Carlos Queres, ancien entraîneur de l'Égypte, il y a Walid Regragui du Wydad Athletic Club qui n'est pas très connu. Qui vous voyez au-dessus du lot?
Donc visiblement, grosse pièce sur Aliou Cissé. Mais attention, on n'est pas à l'abri d'une belle surprise qui pourrait s'appeler Walid Regragui.
Sans doute, pour ce qui est du club de l'année, le Wydad quand même a eu longueur d'avance sur Berkane et Al-Ahly.
Oui, tout à fait. Grosse avance sur la Renaissance Sportive de Berkane, qui devrait être classée en deuxième position pour avoir remporté la Coupe de la CAF. Et l'Ahly qui a manqué son principal objectif cette saison.
Amin Birouk, consultant sportif, joint à Casablanca, au Maroc. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, sur votre site internet voafrique.com. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.